Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work édition Clubhouse. C'est un épisode un petit peu particulier puisqu'il s'agit du dernier épisode Clubhouse. Alors rassurez-vous, les débats vont continuer, mais à partir de la semaine prochaine, ce sera sur LinkedIn Audio. Et oui, je fais partie des bêta-testeurs de LinkedIn Audio et j'en suis très fier. Et donc nous allons basculer sur cette toute nouvelle plateforme à partir de la semaine prochaine. Alors cette semaine, pour cette dernière sur Clubhouse, nous avons décidé de parler avec l'équipe des modérateurs de Happy Work, l'équipe d'experts RH et des coachs de motivation, de la motivation des managers, mais également de la motivation des équipes. Comment fait-on pour se motiver et pour mieux motiver les équipes? Il y a eu plein d'idées très intéressantes, il y a eu des débats et il y a eu surtout vous qui êtes venus intervenir pour proposer des idées, pour poser des questions. Bref, j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter le replay de ce débat que nous avons eu à le faire. Bonne écoute! Bienvenue à toutes et à tous sur cette room Happy Work consacrée à la motivation. Je crois qu'on vient de passer la barre des 10 rooms ou 12 rooms même Happy Work. Donc merci beaucoup à vous d'être là. Merci beaucoup à vous si vous écoutez le replay. Je suis toujours extrêmement surpris du nombre de personnes qui écoutent le replay de nos débats. Donc je suis obligé bien entendu de dire un énorme, gigantesque merci aux modérateurs qui ont rejoint l'équipe Happy Work et qui me font l'amitié de m'aider dans cette animation, dans les réflexions qui sont très souvent pertinentes. Merci aux personnes qui montent sur le stage pour parler avec nous. Je vois le minois de Jane qui est dans l'audience. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps que je ne l'avais point vu. Donc on va accueillir les modos qui vont se présenter par ordre d'arrivée. Parce que je ne sais pas si Benoît est arrivé dans sa voiture. Donc on va d'abord commencer par Hervé Charles. Hervé Charles Léger, est-ce que tu peux te présenter rapidement, camarade?
Oui, je peux me présenter, incroyable. Hervé Charles Léger, je dirige le cabinet qui s'appelle Performance RH. On intervient sur tout ce qui est risques psychosociaux, sur la qualité de vie et les conditions de travail, l'accompagnement au changement. Et on a également un centre de formation. Voilà.
Eh ben super, vous pouvez retrouver Hervé Charles sur LinkedIn. Alors ça sera plus pratique à partir de la semaine prochaine avec LinkedIn Audio, puisqu'on sera directement sur LinkedIn. Enfin, peut-être que vous nous suivrez sur LinkedIn Audio. Et nous avons Benoît Panidis, Magic Benoît, l'homme aux mille métiers, l'homme qui nous surprend toujours. Mon cher Benoît, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez.
Ouais, on t'entend très bien, Benoît.
Super. Alors je vais faire rapidement, je travaille dans l'univers automobile depuis à peu près une dizaine d'années et comme tu dis j'ai eu mille métiers, mille vies peut-être, je ne m'en rends pas compte mais en tout cas c'est le cas, hein. Tu m'as appelé comme ça. Je suis aussi l'obligé de Bob parce que j'adore Bob le pire manager du monde pour mission... à mes yeux en tout cas, d'apporter peut-être par moment dans nos sujets de conversation un angle un peu différent ou un contre-pied et essayer de voir avec le peu d'expérience que je peux avoir, 1000, hein, puisque tu le cites, ça peut faire avancer le schmilblick comme on disait à une certaine époque.
Eh bien, génial, et oui, parce que Benoît, comme moi et comme Hervé Charles, tu es ce qu'on appelle un vieux. Merci pour ton expérience. Les amis, donc on va parler de motivation. Alors on avait déjà fait une room sur la motivation, mais je pense que quand je vois les chiffres là qui tombent sans arrêt, juste pour information, il y a encore un chiffre qui est tombé sur le niveau d'engagement. On est passé à moins de 6% avant la pandémie des salariés français qui se déclaraient comme engagés ou très engagés. Donc s'il y a des camarades belges, suisses, luxembourgeois ou de l'autre côté de la Méditerranée, les Français, nous sommes les champions d'Europe de la démotivation. Et ce taux a extrêmement augmenté de gens motivés dans les entreprises. On est passé de 6% avant la pandémie à, attention, restez assis sur vos chaises, 7%. Donc c'est toujours une cata. Et je me dis que c'est un peu un sujet sans fin. Et pourquoi ça s'appelle se motiver et remotiver une équipe ? Parce que j'ai une sorte de conviction, mais je vais en parler, bien entendu, je donnerai la parole à Hervé Charles en premier en tant que chef d'entreprise. Je pense que il est impossible totalement de remotiver une équipe si soi-même on n'est pas motivé. Et je parle parfois à des managers ou à des patrons de boîtes qui me disent « Oh là là, ça va pas, oh j'ai pas le moral, oh là là, je sais pas où on va. » Et je fais « Mais est-ce que ce sont des messages que tu donnes à tes équipes ?» Et là, on me dit « Bah oui, il faut que je partage les informations, je suis dans la transparence. » Et moi, je pense que toute vérité n'est pas bonne à dire et je donne toujours ce parallèle, un peu provocateur, je dois bien avouer. Imaginez, pour moi, enfin un manager, c'est un peu comme un pilote d'avion. Imaginez, fermez les yeux, vous êtes dans un avion. Et là, attention, vous allez voir mon talent d'imitateur, vous entendez cette voix. Mesdames et messieurs, merci de regagner votre siège et d'attacher vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence. Là, honnêtement, tout le monde se sent super détendu, il y a un mec qui est aux commandes, on sait que ça va secouer un peu, mais le gars, il a l'air de maîtriser. Alors que ça se trouve, le gars qui a l'air de maîtriser, il sait parfaitement qu'on va tous crever. Il nous dit pas toute la vérité, ça se trouve, ce sont des turbulences de dingue. Maintenant, imaginez la même situation, et là, vous avez le micro qui s'ouvre et qui fait « Bon bah, on va tous mourir les amis, ça va pas du tout, il y a des turbulences, je sais pas ce que je vais faire. D'ailleurs, bah, cet avion, je le connais pas bien, et d'ailleurs, il y a un parachute, je me casse. » Bref, je pense qu'à un moment, toute vérité n'est pas bonne à dire pour motiver les gens, mais les premiers à être motivés sont les dirigeants. Alors toi, Hervé Charles, qui, un, travaille sur les risques psychosociaux, c'est trop dur à dire ça pour un jeudi soir, les risques psychosociaux, qui est patron, dirigeant d'entreprise, c'est quoi ton regard sur ta motivation et ta capacité à motiver les gens ?
Alors, la motivation, pour moi, elle passe dans la reconnaissance. C'est le premier vecteur pour moi, dans ma motivation et dans la motivation avec mes collaborateurs, reconnaître effectivement. Sachant que si on se réfère à des travaux un peu plus psycho, il y a le modèle de Schultz, et effectivement, sachant que l'humain, quel qu'il soit, homme, femme, peu importe ses conditions, son niveau social, sa fonction, a trois besoins et trois peurs fondamentales qui sont identiques. C'est aimer, être aimé et être reconnu. Et la reconnaissance dans la motivation est hyper importante. Si tu fais un job, il y a des gens qui font des jobs de manière alimentaire, et bien à un moment, ils vont trouver quand même une reconnaissance. Et le rôle du manager, c'est de trouver, de féliciter. Ça ne veut pas dire faire effectivement de la félicitation à outrance, et n'importe comment, mais dire aux gens merci, bravo, félicitations, et c'est pas à toi que je vais apprendre ça, bien évidemment. La reconnaissance, pour moi, c'est la motivation première. C'est la mienne, et c'est celle que j'essaye d'insuffler tant avec mes collaborateurs qu'avec effectivement nos clients.
Alors la reconnaissance, c'est vrai Hervé Charles, c'est hyper important, c'est bien entendu le feedback et toutes ces choses, c'est absolument central. Alors je fais un tout petit refresh les amis, si vous êtes en train d'arriver, vous pouvez tout à fait monter sur le stage si vous avez des questions, des remarques, des expériences à partager sur la motivation ou des managers qui ont été particulièrement motivants ou démotivants d'ailleurs, ou si vous êtes indépendant que vous n'arrivez pas à vous motiver tous les matins, n'hésitez pas à monter. Donc je rebondis Hervé Charles sur ce que tu disais sur le feedback, la reconnaissance, ce genre de choses. Je suis bien d'accord avec toi, mais toi qui es dirigeant, et je vais poser peut-être la question à Benoît avant de revenir avec toi, Hervé Charles. Benoît, quand on manage, il faut faire du feedback, mais le manager, qui sait qu'il fait du feedback s'il est tout seul en haut de la pyramide ? Comment il se motive, le manager ?
Je pense qu'il peut y avoir deux sources. Première source, le premier feedback, c'est tout simplement... Enfin, quand on est dans une entreprise, le premier feedback, c'est les clients, quelque part. Hein. Si tu as plus de clients, c'est une réponse, effectivement, à la qualité du management et de la productivité que tu as mis en place avec tes équipes. Ou si tu vends plus, ou si c'est déjà les chiffres, les clients. Et le deuxième feedback, ton équipe peut aussi, elle t'envoie de l'information, mais tu en reçois, tu en renvoies, enfin des deux côtés. Si c'est juste que une information descendante et que tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, je pense que la motivation, elle ne peut pas se créer. Il faut qu'il y ait un échange, évidemment, avec peut-être une structuration de qu'est-ce que tu attends de ton équipe qu'elle te renvoie et qu'est-ce qu'eux, ils attendent au niveau des informations que tu as envie de leur donner, bien sûr. Mais
mais je pense que c'est un échange constant. Même quand tu es en haut, tu as besoin de sourcing de ce qui se passe dans toutes tes équipes.
Mais en plus, je pense qu'un manager, il ne doit pas avoir peur de solliciter le feedback. J'en ai encore parlé, je donnais une conférence ce matin où j'expliquais à une tripotée de managers qu'il ne faut pas qu'ils hésitent de demander à leur équipe de se réunir dans une salle sans le manager, avec comme mission de remplir un tableau à deux colonnes, une colonne avec ce que le manager ce qu'il trouve ce qu'il fait bien, et une autre colonne sur qu'est-ce qu'il pourrait mieux faire. Avec une règle, tous les points doivent être validés par l'ensemble de l'équipe. Et ça génère un feedback qui est vraiment extrêmement intéressant, parce que quand on est manager, c'est un petit peu comme quand on est parent, on ne sait pas trop si on trouve qu'on est des bons parents ou un bon manager, c'est pas mal de solliciter un feedback. Et toi, Hervé Charles, si je ne m'abuse, tu es tout seul à la tête de ton entreprise, donc tu n'as pas de manager. Comment tu fais parce que j'imagine que 2020, ça n'a pas forcément été l'année la plus funky et fun pour toi. Comment tu fais pour ne pas retransmettre ce stress en bas?
Alors, j'ai la chance d'avoir 3 collaborateurs très proches sur qui je peux m'appuyer. Déjà, je sais cette chance. Alors, 2020, sur les risques psychosociaux, on a dû accompagner pas mal d'entreprises sur le changement. Donc, je dirais malheureusement, d'un point de vue économique, ça a été plutôt pas mal pour nous.
En fait, tu es comme Bill Gates, tu as multiplié par 2 ta fortune, c'est ça?
Non, j'ai pas multiplié par 2 parce que c'est pas mon leitmotiv. Et ça fait partie des sources de motivation et du sujet d'ailleurs. C'est que je crois qu'on a chacun des sources de motivation différentes. Je rejoins complètement Benoît, mais c'est, je crois que ça nous est propre, les sources de motivation. Moi, j'avoue que c'est trouver du sens. J'ai un sentiment d'utilité dans ce que je fais. Quand j'ai des gens que j'accompagne, etc., ou j'ai un sourire simplement en partant en me disant merci, ça vaut plein de choses. Quand effectivement des gens retrouvent du sens, un repère à ce qu'ils font, ça peut être une source de motivation, et pour moi, ça l'est. Et encore une fois, je ne gère pas Bisounours Compagnie. Hein. On a des clients, on a une rentabilité, on a des marges, on a des charges, etc., etc. Je crois que c'est complètement variable. Encore une fois, c'est d'avoir une équipe. J'ai 3 collaborateurs très proches avec qui je peux échanger de manière hyper régulière. Mais je crois que c'est montant et descendant. Et ce que tu disais, c'est que sur le feedback, un manager, quelle que soit sa position, il doit avoir du feedback, il doit effectivement transmettre les infos, il doit avoir un retour et ne pas avoir peur de ce retour de ses collaborateurs. Bien évidemment, il faut qu'il soit policé, peut-être, parce que des fois, j'ai vu des feedbacks un peu cash, mais simplement, c'est dans tous les sens, c'est transversal une entreprise, c'est pas uniquement descendant. On n'est pas sur un cours comme on a pu connaître à l'école primaire avec un incite qui nous donne une leçon. C'est surtout pas ça un manager, en tout cas.
Ça, c'est... Alors, je vais citer un grand philosophe, mon père, qui me disait un truc depuis que je suis tout petit, il me fait « Gaël, tu peux tout dire à quelqu'un, y compris que c'est un sombre abruti, tant que tu y mets la forme. » Et c'est exactement ce que tu viens de dire, Hervé Charles. Il y a une différence entre un collaborateur qui vient me voir en disant « Hey, t'es vraiment qu'un gros naze en tant que manager » et un autre collaborateur qui viendrait me voir en disant « Gaël, j'aimerais bien te parler de quelque chose parce que en termes de management, je pense qu'il y a des comportements qui pourraient évoluer dans le sens de plus d'efficacité, de productivité, etc. » La forme est fondamentale dans le feedback remontant, et c'est ce qu'on appelle « manager son manager ». Et d'ailleurs, c'est peut-être le premier point de comment se remotiver quand on est collaborateur, c'est d'oser parler à son manager, parce que bien souvent, la motivation, c'est aussi... parce qu'on n'a pas de feedback, parce que le manager n'est pas cool. Et on peut, en tant que collaborateur, aller solliciter ce feedback. Benoît, tu as claqué ton micro, tu voulais parler. Je te donne la parole.
Ben, en fin de compte, quand tu as un collaborateur qui vient te dire que tu es un naze, c'est déjà un feedback. Est-ce qu'il est faux? C'est autre chose.
Non, mais c'est déjà un feedback. C'est pas très constructif. Ce que je veux dire, c'est pas très constructif.
Oui, ça peut être même carrément une fin en soi. Mais par contre, ce qui est beaucoup plus... Et c'est moi, je m'attache, puisque je manage une équipe, je m'attache à ce qu'il n'y ait surtout pas de non-dit.
C'est-à-dire qu'on
peut tous dire, tu peux venir me voir, je peux avoir réagi à un moment... Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs cet après-midi. Je peux avoir réagi à un moment donné. J'ai senti que la personne, ma réaction a été vraiment tranchante. Vraiment, parce que j'étais sur un autre sujet, j'ai discuté avec quelqu'un, une collaboratrice est arrivée, elle a posé la question à ma collaboratrice parce qu'elle avait besoin d'une réponse, et je lui ai dit, tu vois pas que je suis en train de parler, tu poseras ta question après, sors s'il te plaît.
Ouais, c'est un peu sec.
Parce que j'étais sur un sujet,
ouais.
c'est un peu sec, mais le sujet voulait que moi, par contre, sur le sujet sur lequel je travaillais, il me fallait absolument cette réponse-là, et j'étais en train d'intégrer comment je répondais à un client, et qu'est-ce qu'il me fallait avec, je confrontais mes idées avec ma collaboratrice, et après je suis allé la revoir, et j'ai dit voilà, il faut qu'on se parle, gentiment, est-ce que tu as trouvé que ma réaction était disproportionnée, ou pas bien adaptée, ou comment tu as ressenti le moment? Elle m'a dit ouais, j'ai pas compris, j'ai pas saisi. Et je lui ai expliqué le contexte dans lequel j'étais. Je dis voilà, je me suis peut-être exprimé dans mon contexte, c'était peut-être la meilleure solution pour que je puisse prendre d'abord cette décision et répondre à ta problématique après, parce que je pouvais pas faire les deux en même temps. Par contre, effectivement, ma forme était peut-être un peu trop sèche, un peu trop abrupte. Je m'en excuse. Maintenant, on va mettre une procédure ensemble. C'est quand tu viens, il faut que ça soit vraiment motivé et urgent éventuellement pour couper vraiment une discussion que je peux avoir et que tu vois que j'ai avec quelqu'un. Et deuxième chose, éventuellement, on va mettre des codes pour que arriver à ce que moi, je comprenne ton urgence, que je me dise oui, d'abord elle et pas moi, et qu'on ne soit pas dans une certaine défiance, quoi.
Mais il y a un truc que
je pense que la défiance, c'est pire que tout, quoi.
Bien sûr, mais tu as fait un truc que peu de managers font, et c'est très bien de le faire, c'est d'admettre que, ouais, ok, j'ai pas bien réagi à ce moment-là, je t'explique pourquoi je l'ai fait, et c'est toujours ce que je dis, c'est une explication, c'est déjà un début d'excuse, et c'est important de le faire. Et donc toi qui admets, qui dis bah voilà, pardon, il faut pas que ça se reproduise et je te prie de m'excuser, mais derrière d'ouvrir la parole, je pense que dans la motivation la libération de la parole est absolument essentielle et centrale.
C'est essentiel, je te rejoins, c'est essentiel. Si ton collaborateur est un soumis et n'a pas droit à la parole, tu manages dans la terreur, tu manages d'une façon autocratique,
et puis surtout tu es persuadé en tant que manager d'avoir toujours raison. Et ça, c'est absolument effrayant.
Celui qui manage comme ça n'est pas persuadé. Il a raison, par essence.
Oui, c'est très vrai ce que tu dis, Benoît. Mais Hervé Charles, toi, j'imagine dans toute ta carrière, donc je crois que ça fait 85 ans que tu travailles, quand tu es confronté à un collaborateur ou une collaboratrice qui vient te voir et qui te dit « j'en peux plus, je suis pas motivé », ou alors tu sens, parce que moi, ça m'est arrivé que des collaborateurs ou collaboratrices ne disent rien, mais ça se voit quand quelqu'un n'est pas motivé. Ça se sent. Il y a moins de réactivité, il y a moins d'entrain. Ne serait-ce qu'une démarche dans un couloir. Je sais pas si vous voyez les fantômes avec le café qui traînent les pieds dans le couloir. Comment tu réagis par rapport à ça, Hervé Charles? Si t'as un collaborateur, une collaboratrice que tu sens démotivé, est-ce qu'il y a une recette? Est-ce que t'as un truc à nous livrer?
Alors pour répondre à ce que tu disais, oui, 85 ans à peu près, mais c'était toi mon tuteur, donc tu dois avoir 90 ans d'expérience.
Exactement, tout à fait. Exactement. Et tu es mon padawan préféré.
Absolument. Simplement, non, alors j'ai pas de recette, mais c'est vrai que ça se sent quand on manage et qu'on connaît ses collaborateurs, parce que ça en fait, c'est de les connaître, c'est les observer, c'est pas que les écouter, c'est aussi les observer. Les observer dans le sens positif, hein, on n'est pas à les fliquer hein, quand je dis observer, bien d'accord. La première chose qui m'arrive avec un collaborateur, ça merde, on va dire, sur un dossier ou avec un client, et peu importe. La première chose souvent que j'essaye de faire, c'est de le sortir du cadre.
On sort du bureau. Intéressant, c'est-à-dire que tu vas genre déjeuner avec lui ou elle dehors ou boire un pot, un café.
On va boire un café, je l'accompagne. Alors je fume pas, mais si la personne fume, on va fumer une clope, je l'accompagne pour fumer, mais on sort du cadre en fait. On reste pas dans le cadre où effectivement c'est compliqué pour X raisons. Bon, dans ce cas-là, je lui pose la question, est-ce qu'elle veut sortir du cadre, etc. Et on y va, et on va se balader, on va se prendre une heure, on va se prendre un café, on va prendre une demi-heure, cinq minutes, c'est pas grave. Mais en tout cas, souvent c'est ça. C'est que je sors du lieu sur lequel on travaille, où il peut y avoir les problématiques et en tout cas les éléments à faire ressortir. C'est le premier réflexe souvent que j'ai. Après, ça va être effectivement de dire qu'on a le droit de tout dire, on a le droit d'expliquer, demander si effectivement ça va être personnel ou non personnel, sachant qu'il faut être très cash, je ne suis pas assistante sociale, je peux accompagner, mais je ne suis pas assistante sociale, et personne ne l'est, ce n'est pas notre rôle. Troisième chose, c'est de dire, est-ce qu'à un moment, il y aura besoin d'un soutien de la part des équipes? Ça, c'est important.
C'est-à-dire?
Parce qu'effectivement, c'est-à-dire que le manager, ou le chef d'entreprise, peu importe, n'a pas forcément toutes les solutions. J'ai pas des fois les solutions à avoir, mais j'ai pas. Et c'est de dire effectivement, est-ce que tu acceptes si j'ai pas la solution, qu'on en parle avec un de tes collègues, un de tes collaborateurs, ou peu importe, ou qu'on aille voir le client. Ça peut être une problématique client, hein, bien évidemment. Et c'est souvent de dédramatiser, de dire en fait, on va poser les choses, et de toute façon, il y a une solution, et on va trouver, on va regarder comment on fait, et on prend le temps, parce que je conclue généralement sur ça, mais... c'est la santé. Le reste, après, c'est pas très très grave en soi. On trouvera, si c'est un client, on trouvera une solution, on trouvera un arrangement, peu importe. Et les problématiques sont jamais si essentielles que ça. Donc c'est sortir du cadre, surtout le premier réflexe.
Ouais, et puis il y a, j'entends aussi entre les lignes quelque chose que tu dis, Hervé Charles, c'est que finalement, on a toutes et tous le droit d'être démotivés. C'est-à-dire que c'est pas la fin du monde. Et moi, la personne qui me dit j'ai jamais été démotivé de ma life, qui monte sur le stage pour m'expliquer comment il ou elle a fait. Et je crois qu'aussi... Pardon, je t'en prie.
Oui, vas-y. Ah non, mais complètement d'accord. C'est pas parce qu'on est à la tête ou qu'on est manager qu'on doit être à 300% et au taquet. C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Il y a des fois où on n'a pas envie, et même si on aime ce qu'on fait, qu'on trouve qu'on a du sens, qu'on a de la chance, peu importe, qu'on gagne super bien sa vie, c'est sa motivation, pourquoi pas. Il y a des moments où on se dit, merde, faut que j'y aille.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais qu'il y a des managers qui acceptent pour eux de ne pas être motivés, mais qui par contre vont exiger leur équipe d'être au taquet en permanence. Et donc, ce qu'on s'applique à soi, il faut l'appliquer aux autres. Et je pense qu'une des sources de la motivation, c'est de clairement faire passer comme message aux équipes, hey, les amis, si vous avez le moral dans les chaussettes, que vous n'êtes pas motivé, vous avez le droit. Par contre, il faut en parler. Je crois que le mettre sous le tapis la démotivation en se disant c'est un échec pour un manager si mon équipe n'est pas au taquet H24, 7 jours sur 7, c'est une erreur assez majeure. Et que le dire, mais vraiment parler de ce genre de sujet, et c'est là où je ferai peut-être une différence avec le monde du sport, et je vais interroger Benoît là-dessus. Parce que j'ai entendu ce matin que notre équipe de France de rugby aller être entraîné et motivé par les légionnaires. Alors, je comprends qu'un militaire, s'il est sur le front, il peut pas se dire « Tiens, je suis pas motivé ce matin, je vais pas me battre. » C'est son métier, et en face, les gars, c'est la vie de l'un ou de l'autre. Mais sur une équipe de rugby, le côté... j'ai pas le droit... Enfin, si, c'est aussi un combat, dans l'absolu, un match. Mais je sais pas, ça, j'ai trouvé ça... un peu étrange comme moyen de motiver. Benoît, toi, c'est quoi ton regard là-dessus? Et alors, je fais monter Layla. Hop, je t'en prie.
Cette source de coaching, de motivation n'est pas nouvelle. J'avais déjà vu ça, j'ai déjà vu même l'équipe de France de foot qui s'était entraînée avec des chasseurs alpins, qui se sont entraînés avec des gens du RAID ou du GIGN, c'est pas nouveau. Tout dépend ce qu'on met derrière. Il y a le côté déjà nouveau univers qui peut être quelque chose de pour les deux, hein. Parce que des légionnaires sont pas forcément des rugbymen. D'ailleurs, certains viennent de pays étrangers. Dans les pays dans lesquels ils sont originaires, il n'y a pas de rugby, en fait. Mais par contre, il y a une similitude dans le dépassement de soi, c'est-à-dire aller au fond de soi pour obtenir un objectif. Bien sûr que le légionnaire, son objectif, ça va peut-être être de marcher pendant 50 bornes avec des balles qui fusent dans tous les sens et de sauver sa peau. Mais le rugbyman, bien sûr qu'on n'attend pas de lui qu'il ait cette peur pour gagner. Mais par contre, il y a au fond de soi l'esprit collectif que les légionnaires ont. Ils le disent tous dans la Légion, tout seul tu vas nulle part, à plusieurs tu peux aller au bout du monde. Et c'est ce qu'ils apprennent dans la Légion, c'est être tout simplement une unité à plusieurs.
Ouais, j'entends, c'est vrai.
Le côté rugby, c'est ça. Le rugby, c'est ça. C'est une équipe, tout seul, tu peux être le meilleur joueur du monde, en face, tu as 15 mecs qui se serrent les coudes, tu ne vas jamais les battre. Par contre, on est 15 à se serrer les coudes, à y aller, à marteler, à prendre des coups et à avoir le mental qui fait qu'on aide les copains. Le rugby, c'est un sport qui permet ce genre de dépassement. Et je comprends complètement l'aspect légionnaire, parce que ben, les rugbymen, ce n'est jamais qu'un loisir, quelque part même professionnel. Les légionnaires, eux, ils jouent vraiment leur vie, quoi.
Bien sûr.
Donc il y a une autre dimension qui peut impressionner les rugbymen.
Mais ça rejoint ce que disait Hervé Charles sur un moment, c'est le manager qui ne sait pas gérer la situation, il y a la solidarité de l'équipe qui va jouer. Et les amis, on accueille Layla sur le stage, donc un petit cotillon. Donc, bienvenue Layla sur Clubhouse et bienvenue.
Bonjour.
Sur le stage.
Bonjour.
Qui es-tu?
Bonjour, je m'appelle effectivement Leïla. Moi, ça fait 10 ans que je travaille en marketing et actuellement, je suis en phase exploratoire pour me reconvertir.
Que c'est donc, joliment dit, j'adore.
Voilà. Donc, ça fait plusieurs semaines que je me suis mise à écouter Happy Work, donc je suis très contente et merci de me laisser l'opportunité de m'exprimer.
Mais merci à toi de l'écouter.
Je voulais juste aller dans le prolongement de ce que Hervé Charles disait juste avant l'intervention de Benoît. Moi, j'ai managé des équipes pendant 6 ans et ce que j'ai remarqué quand on parle de motivation avec les équipes et effectivement quand on constate qu'il y a un petit décrochage, c'est que quand on demande aux équipes, à notre collaborateur pourquoi il est démotivé, il arrive souvent à mettre des mots sur ce qui le démotive. Donc, quand on lui pose la question de qu'est-ce qui le remotiverait, c'est plus difficile pour lui d'identifier ce sur quoi il faut qu'il travaille ou qu'on travaille avec lui. Et pour moi, c'est hyper important que le manager ait ce rôle d'accompagnateur et justement de l'aider à comprendre ce qui pour lui fonctionnerait demain pour qu'il se sente mieux dans son travail. Est-ce que le matin, quand il se lève, déjà, il n'a pas envie d'aller travailler, donc déjà, là, c'est un problème de fond. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est sur certaines tâches? Est-ce que c'est par rapport à certaines relations avec certains collaborateurs, y compris avec le manager? Et là, pour moi, c'est vraiment hyper important que le manager soit dans l'écoute et dans l'acceptation du feedback, la reformulation, etc., pour comprendre aussi ce que le collaborateur a potentiellement à lui communiquer pour améliorer sa relation avec lui. Est-ce que c'est la rémunération? Est-ce que c'est l'évolution? Enfin, pour moi, le rôle du manager aussi, c'est d'être dans un échange hyper constructif, super ouvert et dans une écoute vraiment active pour permettre aussi à la personne de son équipe d'identifier les pistes de travail pour reconstruire sa motivation petit à petit, lui donner les outils, lui donner aussi les moyens quand c'est possible et lui montrer qu'il va être là pour l'accompagner dans ce regain d'énergie en fait pour travailler au quotidien.
Je suis complètement d'accord avec toi, Leïla. En fait, un des points de départ de la remotivation d'une équipe, c'est déjà d'écouter le pourquoi de la démotivation. Il y a trop de managers qui projettent leur source de motivation sur leurs équipes. Individuellement, je suis persuadé que si je te demande à toi, Leïla, à Hervé Charles ou à Benoît ou à n'importe qui dans l'audience, qu'est-ce qui vous motive pour aller travailler, on aura tous et toutes des réponses différentes. Il n'y a pas de bonne réponse. Alors, ensuite, on peut tirer des grandes théories et notamment s'inspirer de la pyramide de Maslow pour expliquer la motivation. Par exemple, Hervé Charles dit ne pas être motivé par l'argent. Ok, mais je vais te poser une question, Hervé Charles. Si je t'annonce que je te supprime totalement ton salaire, ça va te mettre dans un danger qui va faire que tu ne pourras pas être motivé. Vrai ou pas?
Alors déjà, il faudra me le demander parce que c'est quand même moi qui fais l'échec.
Non, mais je t'interdis. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est...
Alors...
Pardon, non, c'est juste pour dire que la motivation est quelque chose de complexe et en fait, c'est une question de priorité et que si l'argent n'est pas une motivation pour toi pour travailler, c'est ton rapport à l'argent, mais que malgré tout, selon la pyramide de Maslow, il faut un minimum pour pouvoir manger, payer son loyer, etc., pour pas que ça devienne une inquiétude. Mais en fait, ces motivations-là sont différentes selon les personnes.
Complètement d'accord. Et sachant qu'il y a une étude qui doit avoir quelques mois, 6 mois, 7 mois, et qui travaille sur les motivations du collaborateur. Et l'argent, la rémunération, devient qu'en troisième ou quatrième position. C'est-à-dire si effectivement ça a changé. Quand même. Alors après, ça dépend des fonctions exercées. Je pense que chez les commerciaux, la rémunération doit être premier ou deuxième. Mais ça dépend vraiment. Moi, je veux juste rebondir par contre sur ce que disait Leïla par rapport à un collaborateur. J'ai entendu et j'aime bien, mais je fais une distinction entre le pourquoi. J'ai pas l'habitude de dire pourquoi tu as été démotivé, parce que ça veut dire pour quelles raisons, etc. Moi, j'ai plutôt une tendance à demander comment elle a été démotivée. C'est pour comprendre la manière, les moyens qui ont fait qu'elle s'est retrouvée démotivée à un moment dans le travail.
Voilà, c'est un peu subtil pour mon cerveau binaire. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu plus, Hervé Charles?
Parce que si tu dis pourquoi, en règle générale, tu vas essayer de trouver une raison, une intention qui fait que tu as été démotivé. Et si tu demandes le comment, tu vas reprendre tout le processus qui
D'accord, c'est une question de mécanique plutôt que.
Absolument.
C'est pas comme si, le pourquoi, c'est plus tiens, j'ai chopé le virus de la grippe. Le comment, c'est je suis sorti, j'avais les cheveux mouillés, etc. J'avais pas d'écharpe, etc., etc. C'est ça.
Exactement. Et ça te permet, oui, absolument. Et ça permet dans le rôle du manager ou du collaborateur de trouver les palliatifs. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, on accompagnait un contrôleur de gestion qui s'est retrouvé complètement démotivé. Et ça a été, mais pourquoi tu es démotivé ? Elle lui a été posée. Il n'a pas répondu. Et quand on a travaillé derrière, nous, on a travaillé sur le comment. Et en fait, c'est quelqu'un qui visait le poste de DAF, directeur financier. Mais là, il n'a pas fait acte de candidature. Et ce qui s'est passé, c'est que son manager a vu, entre guillemets, régresser dans sa motivation. Il s'est dit, mais il a trop de travail, je vais lui mettre quelqu'un à mi-temps qui va l'aider. Et lui, ça a été de dire, ah ben voilà, finalement, j'ai pas le poste. Et en plus, on met quelqu'un, ça veut dire que je deviens moins compétent. On a essayé de lui trouver un peu plus de temps libre. Il s'est dit, mais finalement, on me retire des missions. Alors que quand on a travaillé sur le comment il avait été démotivé, ça a été de nous dire, ben en fait, je viriguais le poste et je ne l'ai pas eu. Est-ce que tu vois mieux la différence de cette manière-là ?
Ah mais je la vois très bien, d'autant plus que l'anecdote que tu racontes, d'une certaine manière, m'est arrivée à l'époque où j'étais dans un grand média et j'avais pas eu une promotion qui m'était relativement promise, en tout cas c'était un petit peu une sorte de rumeur, je ne l'ai pas eu, mais ce qui a fait que j'ai démissionné pour aller dans une autre entreprise, c'est pas tant que je n'ai pas eu le poste, mais qu'on ne m'ait pas expliqué le pourquoi, le comment, etc. Donc parfois, on peut arriver au même endroit et être motivé ou démotivé et potentiellement se barrer. Donc, je vois que Benoît a claqué son micro, je t'en prie mon ami.
Comme quoi le non-dit dans les deux sens est source de problèmes dans la motivation et dans la gestion d'une équipe ou dans le fait de se faire gérer par son manager. Le non-dit, si, forcément, entraîne une lecture d'un côté comme de l'autre qui est biaisée puisqu'on n'a pas donné l'information, on n'a pas sourcé l'information, donc on se fait une image de soit son management, soit son manager qui n'est pas complète. Or, il faut être assez cash tout en étant respectueux dans les rapports. Moi, l'équipe que j'ai repris là depuis peu de temps, la première chose que je leur ai dit, c'est je serai cash avec vous quand vous ferez vraiment quelque chose qui ne va pas dans ce que je vous demande. Autrement dit, si vous faites, si vous sortez du cadre, je vous le dirai. Mais par contre, je me ferai un plaisir de vous dire tous les jours, quand vous êtes dans le cadre et quand vous avez des beaux résultats et que tout va bien, je vous le dirai aussi. Ça veut dire qu'on peut tous dire, y compris quand ça va bien, et c'est super important. Et j'en arrive à avoir des post-it le soir sur mon écran où ils me mettent des résultats, ils me mettent des mots gentils. Bon, bien sûr, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, ils ont tous la vingtaine, mais l'autre jour, j'ai un directeur qui est passé, qui a vu le post-it, qui m'a dit, généralement, là, c'est que franchement, c'est gagné, quoi. Le management, il est bon. J'ai dit, j'en sais rien s'il est bon. Toujours est-il qu'ils l'ont fait d'eux-mêmes. Je n'ai pas demandé à faire ça. Et c'est d'eux-mêmes, ils se sentent impliqués par ce qu'on fait. Et l'implication et la motivation, c'est super important.
Non, c'est clair, et puis c'est aussi savoir donner du sens à chaque chose et je vais rejoindre un petit peu ce que disait Hervé Charles sur l'argent. Pour revenir sur la notion, est-ce qu'on peut motiver juste avec des salaires ? Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est le manager qui pense que augmenter ça motive et donc il augmente de 10% tous ses salariés, tous, dans son équipe. Bah, figurez-vous que ça peut avoir un impact délétère, notamment sur ceux qui sont les meilleurs, en disant « mais moi, je bosse comme un chien, je dépasse tous mes objectifs et je suis augmenté de la même façon que l'autre quiche qui fout rien. » C'est-à-dire qu'à partir d'un geste que l'on pense motivant, on peut potentiellement totalement démotiver une équipe. Et le deuxième exemple, qui va un peu à l'inverse de ce que je dis, et faites attention, vous allez être dépressif tout de suite. Oui, c'est l'instant dépression avant de donner la parole à Julia, et j'espère que Julia, tu vas nous remonter le moral. En fait, il y a plein d'études qui ont montré qu'à partir d'un certain salaire, si on est encore augmenté, en fait, ça va rien changer ni à notre bien-être, ni à notre bonheur, ni à notre motivation. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une start-up, si jamais vous voulez le nom, je le retrouverai, mais je l'ai plus qui vient à ma tête, mais une start-up qui est déjà plus d'une centaine de personnes, qui s'est dit, bon, nous, on en a marre des augmentations, on en a marre de gérer les salaires et compagnie, donc, on va s'attaquer au sujet en mettant tout le monde au même salaire. Mais attention les amis, il y a 4 ans, ils ont mis tout le monde, directeur comme tout en bas, à 6 000 euros. Et là, cette année, ils ont décidé de mettre tout le monde à 10 000 euros. Tout le monde, y compris un jeune diplômé. Et bien figurez-vous que leurs études, ce qu'ils ont fait comme études, c'est que de toute façon, au-dessus de 10 000 euros, tu ne motives pas plus quelqu'un. Que ça soit 10 000, 11 000 ou 12 000, pour que ça ne change rien. Donc eux, ils ont supprimé le problème. Et je vais donner tout de suite la parole à Julia, mais j'aimerais bien, Julia, si tu nous permets, que Hervé Charles fasse juste un petit retour sur cette idée. Tout le monde au même salaire, mais sur un salaire élevé. Est-ce que c'est une idée qui te semble débile, Hervé Charles, ou pourquoi pas, après tout?
Pourquoi pas? Après, l'équité me parle. Pourquoi pas? Mais encore une fois, il y a des gens pour qui 10 000 euros, ça sera fantastique. Pour d'autres, ils se diront, mais à quoi ça va me servir? Et pour d'autres, ça va être, c'est pas assez, je veux plus, il me faut des bonus, il faut, etc. Encore une fois, on aura tous une motivation qui va être différente.
Ouais, t'as raison. Exemple,
j'aime bien ce symbole, effectivement, équité. Ce qui est parfait, c'est hommes et femmes confondus, et ça, c'est top. Encore une fois, et tu l'as dit tout à l'heure, et sans trop me dévoiler, c'était pas mon leitmotiv. On gagne tous notre vie, on gagne bien notre vie, on va pas se plaindre, mais c'est vraiment trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir créé quelque part un côté paternaliste, un côté familial, c'est peut-être ça. Mais pourquoi pas, et je trouve ça bien, à la rigueur, si les hommes et les femmes sont tous à 10 000 euros et qu'ils prennent du plaisir et qu'il y a un turnover qui est très faible, ben, c'est fantastique en tout cas, et bravo aux patrons qui ont mis ça en place. Bravo à eux, et si ça les motive, ben, ils ont gagné, génial.
Ben super. Alors, Julia, bienvenue sur le stage. Tu as la parole, mon ami.
Merci, c'est vraiment cool. Ça fait longtemps que je t'avais pas entendu, Gaël, Benoît, tout ça, je vous retrouve, c'est vraiment cool.
Eh ben, on est content que tu sois là.
Merci. Je suis suivie sur mes talons par David et PF, donc attention. Mais je vais quand même essayer de dire un truc intelligent d'abord. Excusez-moi si je tousse au milieu de mon truc, je suis en plein Covid, donc je vous le dis, je suis en train de décéder dans mon lit tranquillement, mais je vais réussir à parler un petit peu quand même. Je voulais juste dire un truc parce que je vous écoute depuis un petit moment. Alors, juste un tout petit truc avant de dire mon propos. Hervé Charles, tu as parlé d'équité, mais justement, ce n'est pas l'équité de donner 10 000 euros à tout le monde, c'est l'égalité, et c'est justement pas le propos de l'équité, parce que l'équité, tu réponds aux besoins de chacun de manière adaptée. Donc en fait, celle-là, si je reprends l'exemple du salaire, ça voudrait dire l'équité, celui qui te dit qu'il a besoin de 2 000 et il a 2 000, et celui qui dit qu'il a besoin de 20 000, il a 20 000. Quoi. C'est surtout pas 10 000 à tout le monde, en fait, l'équité. C'est l'égalité, ça, c'est vraiment tous pareil, quoi qu'il arrive, sans réfléchir, c'est le même chiffre. Voilà, ce que Hervé Charles a dit, voilà, ça m'a fait penser à ça. Et sinon, je vous entends parler depuis tout à l'heure, moi je trouve ça hyper intéressant, le côté comment remotiver une équipe et tout ça. Moi, je suis d'accord avec un petit peu ce que j'ai entendu de toi, Gaël, et puis Benoît, c'est-à-dire tout ce qui va être dans... l'action, c'est dans le faire, c'est-à-dire remercier, responsabiliser, surtout ne pas fliquer, ne pas infantiliser, voilà, se mettre dans quelque chose de pas pyramidal, mais au contraire, la hiérarchie à plat, ce genre de truc. Moi, je trouve que c'est ultra, ultra important, dire quand ça va bien, prendre soin des gens aussi, c'est-à-dire quand ça va pas, ben, on s'arrête 2 minutes, en fait, puis on écoute vraiment la personne, puis voilà, on essaie vraiment de pas être juste dans un train qui va à toute allure. Tout ça, ça me parle vraiment beaucoup, mais il y a quelque chose, moi, qui me parle encore plus. Et j'ai pas entendu le mot depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je suis montée sur scène. Est-ce que vous, ça vous parle quand même? J'entends le mot de management depuis tout à l'heure, mais j'entends pas du tout le mot de leadership. Et moi, si tu veux, c'est quand même le premier mot quand j'ai lu le titre de votre room qui m'est venu, quoi. Alors, peut-être vous en avez parlé et j'étais pas là, c'est possible. Mais qui, pour moi, motive et remotive une équipe, c'est quand même un leader, quoi. Et un leader, il est justement pas dans le... Alors, c'est pas vrai si je dis pas dans le faire. Il est pas que dans le faire, parce que le leader, il a quand même une vision pour son équipe qui est ultra importante, et là, on est quand même dans le faire. Mais au-delà de ça, et ce qui est vraiment beaucoup plus important, et ce qui motive tout le monde et tout ça, selon moi, c'est l'être de cette personne, puisque le leader, c'est vraiment quelqu'un qui incarne quelque chose, et de par sa posture, de par sa manière d'être, de par sa communication avec les gens, de par plein de trucs qu'on a en conscience ou pas d'ailleurs, hein, il y a des trucs qui sont inconscients, et ben en fait on va s'inspirer de lui, on va le modéliser, on va le suivre, on va se défoncer pour la boîte, enfin etc etc. Donc moi c'est il y a plein de petits outils comme ça qui sont hyper intéressants dans le faire qu'on peut mettre en place, et c'est génial. Mais alors au-delà de ça, pour moi le top du top, c'est quand même la personne qui incarne des valeurs. Et en fait, ces valeurs, elles dépassent tout, quoi, en fait. Elles dépassent tous les outils possibles et imaginables. Alors, ça vous parle un peu ce que je dis ou pas?
Ça parle, mais on va se lancer dans un débat à couteau tiré entre les modos, toi, Julia, Leïla.
Ah merde.
Non, mais ça va être hyper intéressant. Ce mot de leader, manager leader, alors je vais essayer de trouver un mot poli. Je le conchis, voilà. Et je vais expliquer pourquoi. Deux raisons. La première fois, je voulais comprendre ce que c'était le leadership et le manager leader. Et je suis allé voir une conférence, donc un de mes collègues conférenciers, qui expliquait à 400-500 managers qui étaient là ce que c'est le leadership et d'être un leader. Et lui, donc j'étais au fond de la salle, et il expliquait, pour être un leader, c'est simple, vous devez trouver deux inspirations. Et il parlait comme ça, deux inspirations. D'un côté Gandhi, de l'autre côté Barack Obama. Et là, j'ai vu les managers, mais petit à petit, avoir des sacs de ciment sur les épaules en se disant, mais sans déconner, moi, je suis chef comptable. Qu'est-ce que tu veux que je ressemble à Barack Obama ou à Gandhi? Et la deuxième petite anecdote à propos du leadership, pour moi, un des plus grands leaders de l'histoire de l'industrie, c'est un mec qui s'appelle Steve Jobs. Ce type incarnait, comme tu disais, Julia, des valeurs. Il portait une marque. Il portait de la créativité, il portait... Je pense que n'importe qui l'aurait suivi en enfer. Sauf qu'en tant que manager, ce mec était une horreur absolue. Il suffit de lire sa bio ou de voir son biopic pour voir à quel point ce type était immonde. C'est-à-dire qu'un leader n'est pas forcément un manager et un manager n'a pas forcément, selon moi, à être un leader. Et ça, c'est un peu une des thématiques. Je vais faire une toute petite page de pub. Je viens de sortir, enfin la semaine dernière, un nouveau bouquin qui s'appelle « Le manager bienveillant 2.0 », où je pense que le manager, en fait, doit être capable d'être polyforme, je sais plus. Je n'ai plus de vocabulaire. En fait, il doit être le matin manager coach, l'après-midi manager bienveillant et le soir peut-être leader pour accompagner. Je pense que la difficulté du management, c'est justement de s'adapter, et j'ai un peu de mal, et je vais laisser la parole parce que je suis horriblement bavard à Hervé Charles et à Benoît, ou inversement, c'est le premier qui dégaine qui parle. J'ai un peu de mal avec ce côté un peu...
Bon.
ça sera donc Benoît.
Avec Est-ce que je peux te répondre d'abord, Gaël ?
Ah, mais bien sûr, Julia, avec grand plaisir. Mais juste pour finir, j'ai un peu de mal avec un manager doit être leader. S'il ne l'est pas, il est mauvais manager. Je sais que tu n'as pas dit ça, Julia. Hein. Tu as dit c'est le top du top. J'en suis pas convaincu. Exemple
Alors,
de Steve Jobs.
Tu fais bien. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu viens de faire. J'ai raté une étape, peut-être. C'est peut-être, oui, qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'un leader, en fait. Parce que dans ton premier exemple, pour moi, un leader, c'est pas un gourou, hein, loin de là. Et puis, c'est certainement pas, effectivement, mettre une chape de plomb sur des gens en leur disant, faut copier-coller Gandhi parce qu'il est merveilleux. Oui, d'accord, oui, mais on veut tous copier-coller.
Oui, super, ou Barack génial. Obama.
Barack Obama, génial. Moi, c'est Michelle Obama, tu sais, tant qu'à faire. Voilà, super. En tant que femme, machin et tout. Oui, bien sûr. Donc, voilà, pour moi, c'est pas du tout initier, enfin, amener les gens à devenir des leaders, ça c'est sûr que non. Et puis dans le deuxième, c'est vraiment, enfin pour moi non, moi on parle. Il faudrait peut-être que voilà, je vais pas parler trois heures, mais en tout cas voilà, moi ça, c'est pas ce que j'ai appris du leadership, c'est pas l'image que j'en ai, c'est pas, mais j'entends que c'est la tienne et franchement je le respecte complètement. J'imagine que c'est le cas de plein d'autres mondes que toi, hein, certainement peut-être.
Non mais je pense, Julia, qu'en fait la différence entre le leadership et être leader, c'est d'être écouté par son équipe quand on parle, tout simplement. Enfin je pense, je sais pas, on va donner la parole à Benoît et à Hervé Charles pour voir ce qu'ils en pensent. Benoît. Ah non, c'est Hervé Charles qui a tiré le premier sur ce coup-là. Benoît,
non,
tu viens...
c'est moi, c'est Pan.
Ah oui, c'est vrai, t'as dit Pan avant. Non, Hervé Charles, il a dit Pan avant, Benoît. Vas-y, mon Benoît.
Alors, qu'est-ce qu'un leader, qu'est-ce qu'un manager? Belle question. Est-ce qu'un leader est un manager?
Là, je sens arriver la démonstration en trois heures.
Non,
par...
non, il y a pas de Non, non, il y a pas de démonstration. C'est très intéressant pour Max. En fin de compte, alors je n'ai pas la bonne définition certainement, et c'est pas grave. Mais à mes yeux, merci d'avoir positionné cet axe de réflexion dans le débat, Julia. Pour moi, un manager leader ou un leader manager, c'est quelqu'un qui effectivement sait motiver son équipe, mais peut-être en plus le côté de j'ai envie de le suivre, mais vraiment quoi. Et je m'épanouis dans le fait de le suivre. C'est-à-dire que il a peut-être pas toutes les connaissances techniques comme Steve Jobs pouvait avoir sur son produit. Et encore, Steve Jobs n'a jamais fait une once de programme et pourtant il a vendu des ordinateurs. Il n'a jamais été programmeur de sa vie. Par contre, effectivement, c'était un visionnaire. C'est quelqu'un qui a insufflé un axe une direction. Hein. Il a dit, voilà, on va aller vers là-bas. Il a certainement trouvé les gens qui ont permis de relayer et de mettre en technicité sa vision et de l'appliquer sur le terrain et de bâtir Apple. Faut vous rappeler quand même que Steve Jobs a été viré de sa boîte quand même, à un moment donné. Faut s'en rappeler de ça. Quoi.
Oui, il est revenu et c'est lui qui a sauvé Apple de la faillite quand même.
Voilà. Mais il est revenu, mais sous certaines conditions. Mais à la gestion, ils ont dit on n'en veut plus, quoi, parce que le mec, c'est pas possible, quoi. Donc ils l'ont viré. Donc il a aussi, pour moi, un leader n'est pas quelqu'un qui est lisse et parfait. Ça n'existe pas. Gandhi avait des défauts. Michelle Obama a certainement des défauts. Elle a aussi beaucoup de qualités, mais c'est pas ça qu'on demande. C'est est-ce que je crois en ces gens et est-ce que j'y vais. C'est ça un leader. C'est celui qui te dit. Voilà, si tu veux m'accompagner, ben viens, voilà, tu es avec moi. Et toi, la réflexion que tu te poses, c'est ben est-ce que j'y vais ? Et c'est ça être un leader. Et c'est ce qu'on retrouve dans le sport. Un capitaine, par exemple, c'est un mec qu'on va choisir dans l'équipe parce qu'au moment où on en a besoin, c'est lui qui te donne la direction. Et tu y vas. Et même s'il y a la défaite au bout, ben tu y vas et tu n'en voudras pas d'avoir donné la direction.
Je crois que c'est un partage de valeurs, en fait, un leader. Hervé Charles, qu'est-ce que tu réponds à l'homme qui a fait pan en premier ?
Je rejoins sur le leader. Par contre, la différence pour moi entre un manager et un leader, alors quand on a un manager-leader, c'est fantastique. Mais la différence, c'est que le manager, c'est un statut. Quand vous recrutez quelqu'un, vous recrutez un manager, vous faites un contrat pour recruter un manager. Vous ne recruterez jamais un leader. Le leader, c'est quoi ? C'est une reconnaissance par les autres. On ne définit pas d'être leader. Il y en a qui veulent être leader et qui ne le seront jamais. Parce que le leader, dans les entreprises, si c'est le manager, le top manager, fantastique, génial, mais il m'est arrivé de rencontrer dans les différentes entreprises des leaders qui sont les N-40. Et ce sont eux qui décident, c'est eux qui vont tirer, qui vont partager les visions. Ce n'est pas eux qui vont actionner et appuyer sur le bouton fatidique. Mais n'empêche qu'il y a des leaders qui sont les N-40 dans l'entreprise. Et ça, il ne faut pas l'oublier, on recrute des managers, on recrute des cadres, mais on ne recrute pas un leader. Je n'ai jamais vu un contrat de travail en disant « je recrute un leader ». Je veux effectivement des compétences, et si effectivement vous êtes capable de partager vos visions, vous deviendrez peut-être un leader, à condition que les autres le valident. Alors que le manager, ils vont le valider, parce qu'effectivement, ce sera un statut. C'est pour moi l'une des grandes différences entre le manager et le leader, en tout cas.
Est-ce que je peux répondre à Benoît et Hervé Charles ? Je trouve que c'est hyper intéressant.
Mais carrément, hyper intéressant. C'est même fait pour ça, je t'en prie.
Ah, c'est trop cool. Alors du coup...
Et juste après, on donne la parole à Leïla qui a claqué aussi le micro. Donc Julia, tu as la parole. Non, mais il n'y a pas de problème, aucun problème.
Pas de souci.
Vas-y Julia.
J'ai pas fait gaffe. Alors, hyper intéressant le côté leader tyrannique. Alors, clairement, bien sûr que moi, quand je parle d'un leader, je ne parle pas de quelqu'un de tyrannique. On est d'accord que ça peut aller ensemble, hein, la preuve, mais ce n'est pas du tout le genre de leader que j'imagine, justement, remotiver son équipe. Ben, au bout d'un moment, voilà, il use tout le monde et puis voilà. Par contre, d'autant plus que chez le leader, non seulement il n'est pas parfait, mais c'est ça qui est fort dans le leader, c'est qu'il sait qu'il n'est pas parfait. Et c'est là où il va aussi entraîner son équipe, parce qu'en fait, il va s'entourer de gens qui vont compenser, qui vont le compléter, Et en fait, c'est là aussi où l'équipe, elle est valorisée, c'est parce que le mec, il sait qu'il n'est pas parfait, quoi. Il n'est pas tout puissant, il n'est pas tyrannique et tout ça. Donc pour moi, ça rejoint l'image de leader que j'ai, mais bon, qui est la mienne. Voilà.
Super intéressant. Alors, Leïla, tu veux rebondir sur Benoît, sur Hervé Charles, sur Julia ou sur les trois ?
Sur Hervé et Charles et sur toi, Gaëlle, effectivement, moi, je pense que le leader, c'est plutôt une posture dont la personne en entreprise va occuper la place, parfois sans le savoir, ou parfois parce qu'elle a envie justement de prendre cette posture-là. Mais effectivement, c'est plutôt pour moi une position qu'on va prendre. Et je comprends cette vision de leader un peu gourou, comme disait Julia, un peu tyrannique que t'as, Gaëlle. Mais je pense qu'aujourd'hui, on voit quand même un shift, ce type de leadership a évolué quand on a vu justement l'impact de ce type de leadership sur les équipes en termes de bien-être, de motivation, etc., de crainte du leader. Et aujourd'hui, je pense qu'on va plus vers un leadership un petit peu plus bienveillant et qui se mélange plus à justement des compétences de management, et on arrive de plus en plus à effectivement des managers, comme tu dis, qui sont protéiformes et qui embarquent cette capacité de leadership, mais cette posture-là de leader qu'ils prennent, et ils ne la prennent pas en permanence. Voilà, c'était un peu un mélange de tout.
Non, j'entends. Alors, je vois que Benoît a claqué le micro, tu vas avoir la parole tout de suite, mais est-ce que le manager, qu'il soit leader, coach ou bienveillant, peu importe les mots, au final, j'ai un peu le sentiment, écrivant des bouquins sur le sujet, que les nouveaux concepts et les mots sont créés pour vendre des bouquins. Mais ça, je mets de côté cette réflexion. Est-ce que fondamentalement, ce qu'une équipe demande à son manager et ce qui va motiver une équipe, est-ce que c'est pas tout simplement un manager qui assume ses décisions, qui assume pour le compte de l'équipe les erreurs de l'équipe, et qui assume en général? Je me rappellerai toujours, un de mes patrons chez TF1, quand j'étais devenu manager, m'avait dit: Gaël, tu seras un bon manager si tu sais mettre en avant ton équipe quand elle réussit et t'effacer, et par contre te mettre en avant devant ton équipe quand elle a fait des grosses conneries et effacer ton équipe pour la protéger. Et est-ce que c'est pas ça être un leader? C'est pas un moment, et au même titre que le capitaine d'un bateau, quand il coule, c'est le dernier à partir. Benoît, tu voulais réagir, mais j'aimerais bien aussi ta réaction sur ce que je viens de dire.
Alors, sur ce que tu viens de dire, c'est complètement, effectivement, la vision pour moi de ce qu'est un leader. C'est-à-dire qu'un leader, et Hervé Charles a parfaitement raison, on ne recrute pas un leader. D'ailleurs, même les bons managers, quand ils arrivent dans des nouvelles structures, ils se doivent de sourcer où sont les leaders. Et tu peux avoir des leaders qui sont bien évidemment des leaders, par exemple, de secteurs qui ne te touchent pas, qui peuvent être même à N ou moins, je ne sais pas combien. Ce n'est pas le problème. Par contre, c'est des personnalités. On pourrait appeler un leader, c'est un influenceur, en fait, quelque part. C'est celui qui va donner une influence à l'équipe. Après, tu peux être un influenceur et pas du tout un bon manager, c'est-à-dire avoir une influence, mais pas du tout être structuré pour condenser l'information et la direction que tu veux donner. Et c'est exactement comme tu le disais dans le domaine du sport, le capitaine. Alors, malgré tout, c'est vrai et c'est faux. Parce qu'au rugby, généralement, l'arbitre appelle le capitaine, il le réprimande, mais celui qui a fait la bêtise, c'est pas forcément le capitaine qui sort. C'est pas lui qu'on sort. On sort celui qui a fait la bêtise. Mais par contre, c'est le capitaine qui doit assumer complètement la gestion de l'équipe vis-à-vis éventuellement de l'entraîneur, vis-à-vis des autres sur le terrain. C'est lui qui assume le rôle de dire coach, désolé, effectivement, j'aurais dû le calmer à un moment donné.
Tu remarqueras, mon cher Benoît, qu'en sport, bien souvent, notamment en football, quand une équipe ne marche pas, c'est pas l'équipe qu'on vire, c'est l'entraîneur. Ce qui arrive assez peu souvent dans les entreprises.
Mais l'entraîneur est le manager. Mais par exemple, sur l'équipe de France d'une certaine époque, le leader de l'équipe n'était pas celui qu'on croyait dans le vestiaire. Le capitaine était un certain Didier Deschamps. Le leader de l'équipe mentale pour toute l'équipe, c'était un certain Zizou. Et quand Zizou était là, il savait que il y avait quelque chose qui pouvait se passer à tout moment.
Je suis d'accord, Benoît, mais quand tu regardes.
Par contre, celui qui manageait l'équipe, et après, tu avais l'entraîneur derrière qui donnait l'axe.
Mais. Ça, on pourrait se lancer sur un débat sur l'équipe de France 98, mais c'est pas le moment. Mais j'aimerais poser une question
pitié,
à Hervé Charles.
Pitié.
Ouais. J'aimerais poser une question à Hervé Charles, et on va pas tarder à finir cette room. Il y a une phrase que j'ai toujours aimée, que m'avait dit un de mes patrons à un moment, sur les questions de motivation, etc. Il me dit: Gaël, il n'y a aucun mauvais collaborateur ou mauvaise collaboratrice, il n'y a que des mauvais recruteurs. Et je trouve cette phrase extrêmement juste si vous êtes manager, que vous posez la question de la motivation de l'équipe et vous dites: ah là là, celui-là ou celle-là, elle est jamais motivée, etc. Il y a une grosse part de responsabilité du manager dans la motivation des équipes, voire c'est la première des responsabilités. Hervé Charles, si on met toute la pression sur les épaules du manager pour la motivation, est-ce que tu trouves ça too much ou finalement ça fait partie du métier?
Le réflexe, ça serait de dire effectivement ça fait partie du métier. Premier point. Mais pour faire diminuer cette pression, il faut simplement écouter ses collaborateurs, mais écouter au sens large du terme, les observer, les écouter, parler avec eux, regarder effectivement, enfin, il faut les accompagner, il faut les épauler, et c'est dans ce sens-là où la pression va tomber. Parce que ça nous permet, quand on est manager, quand on écoute régulièrement ses collaborateurs, d'être là quand il faut recadrer, d'être là effectivement quand il faut féliciter, parce que ça fait partie du job également. Enfin, pour moi, c'est écouter. Et quand on écoute, ben, il y a beaucoup moins de pression. Enfin, en tout cas, c'est un sentiment purement personnel, mais j'ai la sensation qu'écouter ses collaborateurs au sens très large, ça les motive, parce que les écouter, ça veut dire que vous leur faites confiance. Et ça veut dire qu'aussi, ils doivent vous faire confiance. Et la confiance, pour moi, est l'un des boosters de la motivation au travail.
Bah, je suis complètement d'accord. Je crois qu'une relation équilibrée avec de l'écoute, de la disponibilité, de la confiance, ça permet de gérer absolument tous les problèmes, et c'est exactement comme dans la vie privée, comme dans un couple, ça part en sucette à partir du moment où on se parle plus, en fait, bien souvent.
Mais c'est ça, c'est un couple, de toute façon, on est un couple avec ses équipes. Ouais. Souvent, on les choisit, ils vous choisissent aussi, et surtout aujourd'hui, dans le recrutement, ils vous choisissent, c'est dans les deux cas, hein. C'est plus que l'employeur qui dit, moi, il y a 15 qui attendent. C'est, non, il y a 15 entreprises qui nous attendent, alors maintenant, donnez-moi envie de me marier avec vous, entre guillemets.
Alors les amis, on arrive vers la fin. Alors pour celles et ceux qui sont arrivés en cours, c'est la dernière room Happy Work sur Clubhouse. Alors rassurez-vous, Happy Work ne disparaît pas, puisqu'on revient la semaine prochaine. Je fais partie des 3 bêta-testeurs avec l'équipe Happy Work de LinkedIn Audio. Donc à partir de jeudi prochain, on se retrouvera sur LinkedIn Audio, qui est en bêta-test. Donc il y aura probablement quelques bugs, mais je suis ravi de faire partie de l'équipe des bêta-testeurs. Alors on va conclure cette room avec, comme d'habitude, le petit mot de la fin des modérateurs. Et comme... Vous savez quoi, on va faire un truc exceptionnel, les garçons, j'espère que vous me pardonnerez. Vu que on a quand même beaucoup de modos qui sont soit en rendez-vous, soit en vacances. On va donner la parole, un petit mot de conclusion aux personnes qui sont montées sur le stage. Alors, je vais commencer par la première arrivée sur le stage. Leïla, est-ce que tu as un petit mot de la fin, déjà pour cette room et pour dire au revoir Clubhouse?
Oui, si je pouvais résumer comment se motiver et remotiver ses équipes, déjà pour se motiver soi-même, c'est déjà faire un travail d'identification de ce qui nous plaît au travail, ce sur quoi on a envie de se développer pour retrouver de la motivation, ou si en fait au final faut juste changer de job parfois, parce que parfois c'est la solution, changer de job ou juste changer d'entreprise, mais faire un travail d'introspection, ne pas hésiter à en discuter avec ses collègues et avec son manager, et pour remotiver ses équipes, pour moi, c'est vraiment dans la communication ouverte, dans l'écoute active, dans l'échange, et toujours de manière constructive et optimiste. Voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Et sinon, hâte de découvrir Happy Work sur LinkedIn Audio la semaine prochaine. Je serai là.
Eh ben, génial. Merci, Leïla. Julia, un petit mot de la fin.
Merci beaucoup. Il y a un peu tout qui a été dit, donc je ne vais pas redire. C'était vraiment cool. J'espère que je vous retrouve de l'autre côté, version audio. Là, je vais essayer de voir un peu où est-ce que ça se passe, tout ça. Et puis sinon, j'espère bien vous recroiser sur Clubhouse, un de ces quatre. Merci beaucoup.
Ouais, on fera toujours des petits tours de toute façon. Mon cher Benoît, ton mot de la fin.
Vive Bob, bien sûr. Et bien évidemment...
Bien évidemment, ça va de soi.
C'est tout simplement pas un au revoir à Clubhouse, mais un adieu. Et comment être motivé? Tout simplement, tu viens de nous motiver, Leïla, à nous, en tout cas les modérateurs, en nous disant que tu seras là. C'est déjà la première source de motivation. On a la première auditrice officielle.
Et ça, c'est beau. Non, mais t'as raison, c'est important. C'est hyper important. Vous savez, c'est parfois sur les réseaux sociaux, on dit est-ce que c'est important les followers et compagnie. Et je vais vous dire la vérité, bien sûr que c'est important. Moi, mon métier, c'est le contenu. Et quand je vois que les replays des Happy Work dans les débats font plusieurs milliers de personnes, bien sûr que c'est super motivant. Donc, savoir qu'on a déjà une auditrice pour la semaine prochaine sur LinkedIn Audio. T'as raison, Benoît, c'est hyper motivant. Mon cher Hervé, Charles, est-ce que tu as quelque chose pour conclure ?
je vais essayer de conclure en faisant un parallèle avec ce qui a été dit, notamment sur la notion de leader. Pour être un leader avec les autres, il faut être un leader avec soi, déjà. C'est la première base. Et pour motiver les autres, il faut déjà se motiver soi. Mais surtout, ne pas attendre de la part des autres que la motivation vous soit transmise. Il faut déjà se la transmettre soi-même. C'est pas toujours simple, je le reconnais, mais ne pas attendre la motivation de la part des autres. Se motiver déjà soi, même si c'est pas simple.
Mais mon cher Hervé Charles, je suis tellement d'accord. Il faut commencer par se motiver soi, parce que c'est motiver une équipe quand nous-mêmes on n'est pas motivé, c'est juste mission impossible. Eh bien, écoutez, les amis, j'ai envie de vous dire mille merci d'avoir été là. On revient jeudi prochain à 18h. Donc, comme je vous le disais, nous abandonnons Clubhouse pour passer sur LinkedIn Audio, qui est en bêta test. Donc, ça sera probablement moins fluide que sur Clubhouse au début, mais comme j'ai une communauté de bientôt 200 000 personnes sur LinkedIn et que c'est vraiment mon média de prédilection, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, à suivre Hervé Charles sur LinkedIn, à suivre Benoît sur LinkedIn, il y a plein de contenus hyper intéressant et surtout on pourra interagir, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, les amis, j'allais vous dire bon week-end, mais pas du tout, puisque nous ne sommes que jeudi. Il me reste à vous dire exactement la même chose que quand je conclue tous les podcasts Happy Work. Avant toute chose, les amis, prenez soin de vous et merci mille fois de nous suivre. Ciao et bonne soirée à vous toutes et à vous tous.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Vive Happy Work.
Bye.
Oh, c'est beau. J'attendais le vive Bob et il dit vive Happy Work. Merci, mon camarade Benoît, et bonne soirée à toutes et à tous. Salut.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.